الله الرحيم. موضوع الخطبة أيها المؤمنون أيتها المؤمنات الصدق. الصدق وهذا موضوع مهم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعله بقدرته في قرار مكين. أحمده تعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، أصدق الناس قولًا وأخلصهم عملًا وأوفاهم عهدًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وأعلام الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن أوثق العرى تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين وطريق النجاة يوم الدين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد خلق الله الإنسان من ضعف وأوجده من عدم، وعلمه بعد جهل، وشرفه من بين المخلوقات، وخصه بالنطق والبيان، فباللفظ يعبر الإنسان عن بغيته ويفصح عن مكنون فؤاده، وبه تظهر الرفعة والدنو والهمة والعلو، من تكلم به بحق علا ونجا، ومن نطق به بباطل هلك وشقى. وإن من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الأخلاقية ما ينطق به اللسان من الصدق، فهو أساس الحياة الكريمة وأهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع. أمر الله بالتحلي به وجعله خلقا لحملة وحيه ومبلغي رسالاته. يقول تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا. ويقول عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا. يتحلى بالصدق الأماثل من الرجال والنساء، ويتصف به الأنفياء من المؤمنين والمؤمنات الذين صفت أرواحهم من الكدر، وطهرت قلوبهم من الرين، وعلت نفوسهم عن كل دنيء محتقر. إنه أمارة على سعادة الأمة ونقاء سريرتها، وهو منبع الخير لها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه مسلم. فالصدق هو الحكم إذا اشتدت الخصوم، والشاهد إذا ضاعت الحقوق، والمصباح إذا اتهمت الخطوب وتعذر الصواب. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، لأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو علامة على رفعة المتصف به، فبه يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور، كما أن البركة مقرونة به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ولذا فإنك لا تجد صادقا في معاملته إلا وتجد رزقه رغدا وحياته طيبة وتسنم مراتب الشرف والسمو. فالصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصلت منهم كبوة أو عثرة فصدقهم شفيع مقبول. والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يسمع. ألا ترى قول الله عز وجل في إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا. فصدقهم هذا أبطله كذبهم الأول حينما قالوا عن يوسف فأكله الذيب. فعلى المسلم أن يشعر بمرتبته في الوجود وأن يدرك منزلته في الدنيا وأن يتخلق بأخلاق العظام، فيصدق إذا تحدث ويخلص إذا تعامل ويؤدي إذا اؤتمن وينجز إذا وعد. وإن قلة الصدق وكثرة الكذب آفة، إذا استشرت في المجتمع قوضت أركان سلامته وهدمت أساس استقراره وأبدلت طمأنينة أفراده قلقا وسعادتهم شقاء. والحياة في مجتمع يمارس أفراده الكذب حياة بئيسة. إن التقدم المجتمع المسلم ورفاهيته وسلامة واطمئنان أفراده كل ذلك مرهون بشيوع الصدق بين أفراده. لقد طغت المادية المظلمة على بعض المسلمين اليوم فجهل مكانهم في هذه الحياة وبعد بذاته عن الحكمة التي من أجلها خلق، وأبى إلا أن يتخلق بالأخلاق البغيضة ويتطبع بالطباع المرذولة لآمال موهومة كاذبة. لقد أنكر القرآن العظيم على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب. قال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الصادق شهادته بر وحكمه عدل ومعاملته نفع. من صدق في عمله بعد عن الرياء والسمعة، صلاته وزكاته وصومه وحجه وعلمه ودعوته لله وحده لا شريك له، لا يريد بإحسانه غشا ولا خديعة، ولا يطلب من أحد من الخلق جزاء ولا شكورا. صدقه في أقواله وأفعاله هو مطابقة مظهره لمخبره وتصديق فعله لقوله. أيها المسلمون لقد أمر الله جميع فئات المجتمع بالصدق على اختلاف معارفهم وعلومهم. فالعلماء ورثة الأنبياء في تبليغ الدين، قدوة صالحة في تحليهم الصدق في أقوالهم وأفعالهم، يعملون بما يحملون من علم وما ينقلونه من الدين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والتاجر المؤمل الربح المبارك في تجارته، يجب عليه أن يتحرى الصدق، فلا يروج سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك ممحق للكسب مذهب لبركة الربح. والأجراء على اختلاف مراتبهم وتنوع أعمالهم ومناصبهم، يجب أن يتحروا الصدق، فلا يزعمون زعما تكذبه الحقائق ولا يصدقه الواقع. وكلما علت الهمة واتسع النفوذ وتشعبت المسؤوليات، كان الصدق أوجب. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ إن التمسك بالصدق في كل شأن وتحريه في كل قضية والمصير إليه في كل حكم دعامة مكينة في خلق المسلم. فالإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. وقد أخبر الله سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدق في القول، وصدق في الإرادة والنية، وصدق في العمل، وصدق في المعاملات. أيها المسلمون، لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام بقوله: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أمور: مدخل ومخرج ولسان وقدم ومقعد الصدق. وحقيقة هذه كلها هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان لله وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأفعال. وعلى هذا المثال القويم سار الرعيل الأول والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وأناروا بصدقهم الظلم، وكانوا منارات للأمم. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه عندما صدق في تخلفه عن غزوة تبوك، وكان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. رواه البخاري. قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، le sujet d'aujourd'hui porte sur l'honnêteté, la véracité, la sincérité dans les actes et les propos, ce qu'on appelle en arabe al-sidq. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. As-sidq, c'est le fait de dire la vérité et d'être digne de confiance. As-sidq se manifeste à la fois dans la pensée, dans les paroles, dans les actions et les interactions avec les autres. As-sidq signifie l'intégrité et le sens moral. L'islam exige de ses fidèles qu'ils disent la vérité et qu'ils soient honnêtes en toutes circonstances, et leur interdit de mentir. Cette honnêteté, qui est une partie essentielle du caractère du musulman, implique également le fait d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration, d'être sincère envers soi-même en se respectant et en respectant la loi d'Allah azza wa jalla, et d'être sincère envers les autres en disant toujours la vérité et en étant honnête dans nos transactions. Ce qu'on appelle transaction, ça peut être des achats, les ventes, ça peut être le mariage, ça peut être une transaction. Il ne doit jamais y avoir de tromperie, de tricherie, de falsification, d'omission délibérée. Le musulman doit être transparent en toutes circonstances et aussi honnête au fond de lui-même qu'il le laisse paraître à l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: la sincérité mène à la vertu et la vertu mène au paradis. L'homme qui dit toujours la vérité sera inscrit au nombre des véridiques. Akhil muslim, l'honnêteté dans toutes les transactions commerciales est une obligation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les musulmans à être scrupuleusement honnêtes lors des échanges commerciaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: si deux parties se rencontrant pour faire une transaction sont sincères et révèlent clairement tout défaut dans leur produit, leur transaction sera bénie. Mais s'ils mentent et tentent de cacher tout défaut dans leur produit, leur transaction ne recevra aucune bénédiction. En s'efforçant d'être constamment honnête et véridique, une personne devient meilleure au fil du temps. Elle mène une vie plus vertueuse et, grâce à ses qualités, occupe une position élevée auprès d'Allah Azza wa Jal comme auprès des hommes. La véracité est une qualité qui doit être cultivée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement implantée dans l'âme d'une personne et qu'elle se reflète dans son caractère et ses manières. Le caractère véridique a été un attribut essentiel de chaque prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Allah dit: ô Muhammad, dans le sens, parle d'Ibrahim dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Il dit aussi et mentionne Ismaïl dans le livre, il était certes fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Il dit aussi, en parlant de la mère de Isa ibn Maryam, il dit: wa ummuhu siddiqa. C'est-à-dire que c'est la véracité, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité n'est pas seulement une qualité réservée à l'homme au sens propre, mais à l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire à l'homme et la femme. Le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Avant sa venue, des messagers comme lui sont passés. Sa mère était une femme véridique. Ayyuha al-Muslim, sache que l'honnêteté est la conformité parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intention et l'action, entre la croyance et le discours, entre la prédication et la pratique. L'honnêteté est donc la pierre angulaire du caractère du musulman est le tremplin de ses actions vertueuses. Akhil muslim, tout comme l'honnêteté et la véracité et la vérité dans les propos sont la prière angulaire du caractère vertueux d'une personne, le mensonge, qui est son opposé, constitue le fondement de la dépravation d'une personne et la rampe de lancement vers la perversité. La malhonnêteté d'une personne, son habitude à mentir et à tromper sont aussi le reflet de ce qui se trouve au fond d'elle-même. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'honnêteté et du caractère véridique l'opposé de l'hypocrisie. Le menteur invétéré et méprisé, vraiment et totalement méprisé par tous, même par ceux qui lui ressemblent. Car nul ne peut faire confiance à un menteur, pas même les autres menteurs. A contrario, le véridique, quant à lui, sa parole est respectée par tout le monde. Prenons le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-amin, le digne de confiance, le véridique, lorsqu'il envoya une lettre à l'empereur byzantin l'invitant à embrasser l'islam. Aussitôt, l'empereur byzantin demanda à parler aux proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les questionner à son sujet, et c'est Abu Sufyan qui s'est retrouvé face à l'empereur byzantin. Il fut questionné et il n'a pas eu d'autre choix que de dire la vérité au sujet du prophète alors qu'il n'était même pas encore musulman. J'ai évoqué également l'histoire de Ka'b ibn Malik. J'ai évoqué son histoire pour démontrer et pour montrer aussi que la sincérité, elle finit toujours par triompher. Ka'b ibn Malik, le hadith est très long, donc je ne vais pas l'évoquer entièrement, mais je vais essayer de synthétiser. Il y avait une expédition militaire, l'expédition de Tabouk, et les musulmans se préparaient chaque jour. Ils allaient se préparer. Et Ka'b ibn Malik, à cette époque-là, il était jeune, il était fort, il était riche, il avait de l'argent. Donc rien ne l'empêchait de participer à cette expédition. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en a voulu autrement. Et Ka'b ibn Malik n'a pas participé à cette expédition. Il est resté chez lui, il est resté à Médine. C'était une période où il faisait très très chaud. Et tous les jours, il se disait, je vais aller rejoindre le prophète et les Sahaba, tous les jours. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rentre de l'expédition de Tabouk. Et Ka'b ibn Malik, ainsi que plusieurs, n'ont pas participé à cette expédition. Il y avait énormément de musulmans qui avaient participé à la bataille de Tabouk. Énormément de musulmans. Donc finalement, vu le nombre de personnes, on pourrait se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saura pas qui était là et qui n'était pas là. Ça passerait inaperçu. Lorsque le prophète revenait, il avait pour habitude de rentrer à la mosquée et de recevoir les gens donc qui n'ont pas participé à l'expédition et qui venaient lui donner leur excuse. Valable ou pas, peu importe, le prophète acceptait et il leur disait « Je vous laisse et je laisse Allah décider pour vous » par rapport à ce que vous cachiez au fond de vous-même. On ne peut pas savoir si quelqu'un a vraiment caché quelque chose, on ne peut pas savoir s'il a menti ou il n'a pas menti, s'il dit qu'il était malade ou qu'il se sentait pas bien, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le savoir, car il est omniscient. Et Ka'b ibn Malik, donc il était dans la file d'attente, et lorsqu'il est arrivé pour voir le prophète, il ne lui a pas sorti d'excuses, il ne lui a pas sorti de mensonges. Il lui a tout simplement dit qu'il n'avait aucune excuse et qu'à ce moment-là précis, il était fort, il est jeune, il est riche et qu'il aurait pu participer à la bataille de Tabouk, à l'expédition. Mais par confort, pour rester à Médine et aussi par, on peut appeler ça d'un langage assez familier, par flemme d'aller jusque là-bas et de combattre parce qu'il y avait assez de monde, Allah en a décidé autrement et il n'a pas été. Mais il a été sincère, c'est-à-dire qu'il a dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans même essayer de lui trouver une excuse pour essayer de le tromper ou de tricher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de la réponse de Ka'b. Il a dit, enfin quelqu'un de sincère, parce que parmi tous ceux qui sont venus, ils étaient plus de 80 à ne pas participer à l'expédition. Plusieurs ont sorti des excuses qui n'étaient pas forcément valables, Mais Ka'b a dit la vérité. Lui et deux autres personnes, ils étaient trois. Ils étaient trois sincères à ce moment-là, qui ont sorti aucune excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant la vérité, en lui disant on aurait pu venir mais on n'est pas venu, tout simplement. Et le prophète leur a dit sortez d'ici et attendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge et porte son jugement sur votre situation. C'est lui qui juge, c'est pas moi qui juge pour le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ka'b ibn Malik ainsi que les deux autres personnes, les deux autres sahaba qui avaient déserté cette expédition sont rentrés, bien sûr avec le regret. Ils ont demandé pardon à Allah, ils ont été mis en quarantaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tous les sahaba de ne pas leur adresser la parole. Vous imaginez, vous êtes dans une même ville et les gens ne veulent plus vous parler, ne veulent plus vous adresser la parole. C'est ce qui est arrivé aux trois sahaba, dont Ka'b ibn Malik, qui ont déserté la bataille de Tabouk. Ka'b ibn Malik, lui, il était jeune, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc il se rendait encore dans les marchés, il allait encore à la mosquée pour prier, malgré que personne ne lui adressait la parole, il essayait de prier pas loin du prophète, il le saluait, et essayait de voir s'il lui rendait le salut, si ses lèvres avaient bien bougé. Dans le hadith, c'est expliqué exactement comme ça. Et il disait même dans le hadith, il explique que même des fois il se tourne pour regarder le prophète, à peine il se tournait vers le prophète que le prophète tournait sa tête, et quand Ka'b ibn Malik se retournait, le prophète le regardait. Donc il y avait cette rahma aussi, c'est aussi une rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en attendant le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. 40 nuits sont passées et le prophète a demandé aux trois sahaba de ne plus approcher leurs femmes. Donc là, il a compliqué encore la donne à ceux qui n'étaient pas venus à l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik a aussitôt exécuté l'ordre que le prophète lui avait donné. Il lui a dit, il faut que je la répudie, il faut que je divorce. Non, tu ne divorces pas, mais tu n'approches pas ta femme. Donc il n'a pas approché sa femme, il lui a même demandé d'aller chez sa famille jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne son jugement. Ka'b ibn Malik continuait à regretter et continuait à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme je vous disais, dans une même ville, on ne vous adresse pas la parole du jour au lendemain, on ne vous sourit plus, on n'a plus confiance en vous quasiment, et il avait l'impression que la terre devenait de plus en plus étroite, et il avait l'impression même d'étouffer au sein même de son corps. Et un jour, à l'aube, Ka'b ibn Malik, il était sur le toit de sa maison et il continuait d'invoquer Allah, il continuait de demander pardon et il a entendu un des sahabi qui lui a crié et qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Certes, au bout de 50 nuits, Allah subhanahu wa ta'ala a donné son jugement et a décidé de pardonner aux trois sahaba qui ont déserté la bataille de Tabouk, il a décidé de leur pardonner grâce à leur sincérité. Et Ka'b ibn Malik, lorsqu'il s'est rendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Ka'b ibn Malik dit est-ce que cette faveur provient de toi, ô messager d'Allah, ou est-ce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit plutôt d'Allah le Tout-Puissant. Ka'b ibn Malik lui dit alors ô messager d'Allah, Allah ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité. Et comme autre preuve de mon repentir, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Ka'b ibn Malik dit fa wallahi, je n'ai jamais appris jusqu'à ce jour qu'aucun musulman n'a été mieux récompensé que moi par Allah subhanahu wa ta'ala pour sa sincérité depuis que j'ai dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite qu'Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. J'aimerais finir, mes chers frères, mes chères sœurs, le sermon sur quatre choses qui nous mèneront à la place réservée au véridique auprès du souverain et de l'omniscient. À savoir, le musulman, à chaque fois qu'il entreprend quelque chose et qu'il rentre quelque part, il doit rentrer avec sincérité, avec véracité, avec sidq. Lorsqu'il sort d'une action, d'une assemblée, d'une maison, n'importe où, toutes ces sorties doivent être également basées sur le sidq. Sa langue, ses propos doivent être basés sur le sidq. Et également, sa foi et sa relation qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit aussi être basée sur le sidq, afin de pouvoir gagner cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelée dans le Coran, maq'adu sidq, inda malikin muqtadir. Donc tout le monde se doit non seulement d'avoir des entrées, des sorties avec sincérité, avec intégrité, avec véracité, avoir une langue véridique qui dit que la vérité, et avoir aussi une foi et faire ses actions avec sincérité. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجز من علمنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.